Bonjour à vous. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Dov Lynch. Dov Lynch est diplomate et essayiste. Il est irlandais, mais en l'entendant parler, on n'imagine absolument pas qu'il soit irlandais. Il est spécialiste de la Russie, du Caucase, des Balkans. Il a été chargé de recherche à l'Institut de sécurité de l'Union européenne. Et il a beaucoup justement travaillé sur les questions des frontières, et notamment des frontières à l'est de l'Europe. Il est aujourd'hui conseiller auprès de l'UNESCO. Et par ailleurs, donc, il écrit donc des textes théoriques, des essais, et il a publié chez ses belles éditions toulousaines Anacharsis un roman qui s'appelle Mer Noire et qui est vraiment inspiré de sa connaissance de toute cette zone frontalière de l'Europe. Donc, Dov Lynch a choisi d'intituler son intervention « Mes États imaginés » entre littérature et géopolitique, en quelque sorte.
Ouais.
Voilà. Merci beaucoup, Dov Lynch.
Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup à vous tous d'être venus si nombreux. C'est la première fois que je viens à La Grasse et... Donc je vais faire des allers-retours comme ça avec la tête pour voir tout le monde. Donc c'est assez. Je comprends. Je vous avoue que je comprends pas trop l'endroit encore. Donc ce petit village un peu perdu dans un endroit un peu clos comme ça, c'est voilà. Et puis vous tous réunis ici pour voilà. Donc je vous avoue un petit brin d'incompréhension, mais j'espère que je vais passer quelques jours et on va voir si je comprends mieux. Mais en tout cas, merci. Donc je suis Dov Lynch. Je vais vous raconter une histoire parce que Dominique m'a donné et je vous remercie Dominique pour cette invitation encore. Dominique m'a donné carte blanche. Et en fait donner carte blanche c'est compliqué parce que on sait pas quoi faire avec. En fait c'est beaucoup plus facile d'avoir une direction puis on suit, ça marche. Mais carte blanche ça implique une certaine responsabilité qui est plus compliquée pour moi. Donc je me suis j'ai réfléchi, alors qu'est-ce que je vais vous dire? Mais alors, je vais vous raconter une histoire. Et en fait, c'est mon histoire. Pas que je cherche à me mettre en avant, mais pourquoi pas, c'est mon histoire. Et ça m'a permis, en tout cas, de jeter un regard en arrière sur plus de 20 ans de réflexion, d'écriture et de pensée sur une région du monde, sur une thématique, et finalement de regarder un peu cette évolution. Et je vais commencer par vous lire quelque chose. Donc c'est le premier chapitre d'un essai qui s'appelle Improbable aprasie, qui est écrit par un monsieur qui s'appelle Léon Colm, qui est moi. Donc c'est écrit sous un nom de plume. Donc voilà, je commence. Cette fois, c'est Kvartchal. Une petite ville en Aprasie, prospère grâce à ses mines de charbon avant la guerre, mais qui fut assiégée, à moitié détruite, ses usines maintenant oubliées, sa gare abandonnée. Une ville de montagne perdue dans le Caucase, dans un pays que l'on ne connaît pas et qui, par ailleurs, n'est pas reconnu. À l'entrée de la ville, je m'arrête pour prendre un café, dans un cabanon, en bas de la route, et attendre que la pluie s'arrête et que le feu me réchauffe. Le maître de maison me dit « Le centre, tu verras, c'est le marché. Il n'y a que ça. » Devant la porte du bureau du directeur de marché, j'hésite. Le temps d'une respiration, quelque chose me retient. Le silence un peu emmitouflé de la pluie, le poids évanescent du ciel, cette odeur familière de montagne. Je regarde le marché avec ses 15 kiosques et son parking boueux, ses hommes en manteau de cuir et discutent. Plus tard, j'écoute le directeur du marché me parler de la guerre. Personne ne l'attendait, dit-il. Le 14 août 1992, comme tous les jours, j'ai ouvert le marché et je me suis installé pour la journée. Rien de plus normal, sauf que la guerre est arrivée. Mais vois-tu, le Georgien, il arrive en Aprasie, il part de chez lui pour se battre ici et il découvre vite qu'il ne veut pas mourir ici. Et voilà, un jour, il rentre. Et un jour, ils sont tous rentrés. Et une fois les Georgiens déboutés, nous avions un État Apras. Et tu vas me dire, mais cet État n'est pas reconnu, cet État n'existe pas. Et moi, je répondrai, moi, je suis Zourab Djindjolia, je vis à Kvartchal, j'ai 41 ans, j'ai vu beaucoup de gens mourir pour pouvoir dire que l'État Apras existe. Je n'ai pas de regrets, dit-il, mais on paye un prix. Maintenant, nous avons un pays, mais nous y sommes emprisonnés. Nous ne pouvons ni aller en Géorgie ni en Russie. Fais voir ton passeport, il te crie. Depuis la guerre, beaucoup de gens sont malades. Psychiquement, je veux dire. Ils ont les nerfs à vif. Tous ont perdu des membres de leur famille. Ils sont malades dans l'âme, malades dans le cœur. Dans le temps, avant la guerre, la vie était civilisée. Maintenant, les nerfs lâchent. Je fais semblant, moi, de ne pas voir ses mains qui tremblent légèrement, ni ses prunelles des yeux que l'alcool rétrécit malgré l'heure matinale. La pièce qui lui sert de bureau contient une table, une chaise en bois, un téléviseur. Le chauffage est au maximum. Le mur du fond est recouvert par un papier peint représentant une plage tropicale. Je crois qu'on va se faire emporter. Je vais retomber parmi vous. Si vous m'entendez, ça va. Nous entendons frapper à la porte. Le directeur ignore le bruit, se place près de la fenêtre. J'attends une inspection d'État, me dit-il. Les voix derrière la porte deviennent insistantes. Ce sont eux, ils viennent vérifier mes comptes. Mais que me veulent-ils? Qu'est-ce que j'ai commis comme erreur? Bien sûr que j'en ai commis. Et d'un coup, la porte s'ouvre et quatre hommes, mouillés par la pluie, font irruption dans la pièce. Et tandis que j'essaye de disparaître dans la confusion, le chef de l'inspection me regarde et me demande « Mais qui êtes-vous? Et que faites-vous ici ?» Voilà, je commence par ça parce que je ne sais pas répondre à cette question et ça me fait penser que je pourrais me poser la même question ce soir devant vous. Donc, que fais-je devant vous et qui suis-je devant vous? La question m'a été posée plein de fois au cours de mes voyages dans ces zones de conflit et je n'ai jamais vraiment pu répondre. À chaque fois, j'étais une personne différente. Et ce soir aussi, la question se pose, qui suis-je? Je pourrais répondre d'une façon facile. Je suis irlandais, d'origine irlandaise, de nationalité irlandaise, de parents irlandais. Je suis né aux États-Unis, donc j'ai une nationalité américaine, j'ai un passeport américain. Je suis francophone, donc j'ai vécu longtemps en France, mais je ne suis pas français. J'ai été chercheur universitaire, j'ai été négociateur dans les zones de conflit en ex-Union soviétique, je suis maintenant diplomate et écrivain, mais ça ne veut rien dire parce que je suis américain mais je ne suis pas américain, j'ai un passeport mais je m'en sers jamais, ça n'a pas vraiment un sens dans ma vie. Je suis irlandais mais j'y n'ai jamais vécu, je fais partie de cette diaspora irlandaise qui a vécu partout au monde, l'Irlande a exporté tant de gens. Je suis francophone, je peux passer inaperçu je pense. Mais je ne suis pas français. Et ça, je le sais. Et c'est comme ça. Et je suis diplomate, mais en même temps, je passe la moitié de mon temps à écrire ou à penser à l'écriture. Pendant longtemps, j'ai même été pris pour des choses que je n'étais pas. Longtemps, on m'a pris pour un espion. Parce que longtemps, on m'a pris pour un Écossais. Parce que dans le Caucase, dans ces zones de conflit, on fait vite le raccourci. Et oh, l'Irlande, l'Écosse, non, en fait, c'est l'Écosse. Donc on parlait de Mel Gibson dans Braveheart. Voilà, je laissais passer, parce qu'on ne va pas leur expliquer l'Écosse et l'Irlande. Longtemps, j'ai été pris pour un juif. J'ai un nom, prénom qui est juif, Dov. C'est un nom qui porte une signification en Israël. Je ne suis pas juif. Voilà, donc je suis devant vous. Qu'est-ce que je vais vous raconter pendant une heure? C'est un peu l'histoire de tout ça. Je vais vous parler de mes états imaginés. Et ces états imaginés sont... J'ai fait circuler une carte, je n'avais pas assez, je n'imaginais jamais qu'il y avait autant de gens. Donc, ces états imaginés se trouvent autour de la mer Noire. Si vous voyez la mer Noire, tout au bout de l'Europe, la Turquie au sud, le Caucase tout à l'est, la Russie qui fait le tour comme ça, l'Ukraine, la Crimée, et ensuite la Moldavie, la Roumanie, la Bulgarie. Et on revient vers Istanbul, vers la Turquie. Les états imaginés que j'ai longtemps visités pendant 20 ans, sur lesquels j'ai travaillé, j'ai étudié, j'ai écrit des livres, sont les états séparatistes de la région. Donc il y en a quatre. En Géorgie, il y a deux états séparatistes. L'Abkhazie, dont j'ai parlé, l'Ossétie. En Azerbaïdjan, au Caucase aussi, il y a un état séparatiste qui s'appelle le Nagorno-Karabakh, qui est arménien finalement. Il y a aussi en Moldavie un état séparatiste qui s'appelle le Pridnestrovie, le Transnistrie en français. Voilà, tous ces quatre états sont autoproclamés, personne ne les reconnaît, personne ne les accepte, ils sont sur aucune carte de la région. Et j'ai passé 20 ans à les étudier, à travailler sur ces états. Donc c'est ça mes états imaginés. Donc en fait, cette évolution, je vous propose une sorte d'évolution, un parcours d'apprentissage que j'ai fait moi. de la certitude, d'une façon de voir cette région, cette carte, d'une façon scientifique, académique, vers la contingence, une vision contingente, une vision non académique, vers une vision qui serait, bien sûr, artistique, finalement. Tout ça, je pense, non pas tout ce voyage, tout ce long évolution que j'ai suivi, n'a pas été pour comprendre le monde. Je ne pense pas que c'est trop direct. Mais je pense qu'il a été pour essayer de trouver la bonne question pour comprendre le monde. Donc à chaque fois, à chaque étape que j'ai suivie, ce n'est pas que j'ai cherché à comprendre le monde, c'est que je cherchais la bonne question, pour poser la bonne question, pour la comprendre. Pour cerner un peu le monde, pour cerner un peu et peut-être combler un peu la brèche qui m'en séparerait moi. La brèche qui me séparait de l'histoire de cette région, de ces États. Donc comment tracer ce chemin ? Ben, par les livres. Et je vais vous proposer donc l'histoire de 4 livres. En fait, 4 couches de sédimentation. Voilà, on commence comme ça. Voilà. Chaque couche est une façon de voir le monde. Chaque livre est une image, une photographie d'une perception du monde à un moment donné. Et donc ça a été, je pense, un chemin d'éloignement et aussi un chemin d'approche. Éloignement d'une façon de voir le monde scientifique, éloignement de l'anglais vers une vision, un chemin d'approche vers la littérature et vers le français. Donc la langue qui n'est pas la mienne, finalement. Donc c'est un voyage d'apprentissage dans mes états imaginés, à travers moi, à travers la langue et le langage, finalement. Mer Noire, qui est le roman dont a parlé Dominique, vient de quelque part. Donc je vous propose d'explorer un peu les rivières tributaires, d'en voir les origines. À chaque étape, j'ai été quelqu'un de différent. On est tous quelqu'un de différent à chaque étape de notre vie. Et là, j'étais chercheur, académique. À chaque fois, j'avais une nouvelle fonction, une fonction différente par rapport à ce que j'étudiais, sur lequel j'écrivais. Donc commençons. Le premier, voilà, un livre un peu austère. La première étape, c'est ce livre-là que j'ai écrit. C'est mon doctorat, c'est ma thèse. J'ai suivi une formation académique très, très classique, finalement. J'ai étudié donc en France, je suis arrivé en France à l'âge de 11 ans. J'ai fait des études de russe. Ensuite, à l'âge de 18 ans, j'ai quitté la France, donc j'ai fait mes études secondaires ici. Et je suis parti aux États-Unis, j'ai fait des études soviétiques, de soviétologie, à Yale, à l'université de Yale, parce que la Russie me passionnait. Donc j'ai le dernier diplôme en soviétologie qui existe. J'ai eu mon diplôme en 92, donc 6 mois après la chute de l'Union soviétique. Donc j'étais devenu historien. Mais les études soviétologiques sont très particulières. On étudie la langue, la littérature du pays, on étudie l'économie, l'histoire, la littérature que j'adorais, et aussi, bien sûr, l'idéologie. Et moi, j'étais fasciné, et je le suis toujours, par la question militaire, les questions stratégiques. Donc j'ai fait des études à Yale sur la doctrine militaire soviétique, si vous pouvez vous imaginer. Ensuite, je suis parti à Oxford, où j'ai continué, j'ai fait un doctorat. À l'âge de 27 ans, sur la doctrine militaire russe. Donc la nouvelle Russie qui a émergé après la chute de l'Union soviétique. Donc c'était tout ce qui m'intéressait, c'était les questions stratégiques et militaires, comment la Russie s'adaptait à son nouvel environnement. L'Union soviétique tombe en 91, le 31 décembre, donc un drapeau descend. 15 autres drapeaux s'élèvent aux Nations Unies à New York, dont fait partie la Russie. Et 14 autres États nouveaux qui sont indépendants. La Géorgie, tous ces pays de l'Asie centrale, les 3 pays du Caucase, la Moldavie, l'Ukraine et les 3 pays baltes. Ce qui m'intéressait à l'époque, c'était de comprendre comment la Russie s'adaptait à cette situation. Et voilà, le résultat, c'est ça. C'est un livre que personne n'a lu, enfin presque personne. J'étais prof à l'époque, donc j'ai forcé mes élèves à le lire, bien sûr. Il coûtait très cher. Mais c'est un livre sur les opérations de maintien de paix russe dans les zones de conflit en ex-Union soviétique. Au Tadjikistan, en Asie centrale, en Géorgie, en Moldavie et en Azerbaïdjan. Parce que c'est ce qu'on fait quand on est chercheur, c'est une approche classique de chercheur. On essaie de comprendre On essaie de tout lire, on essaie de parler à tout le monde et de lire tout ce qu'il y a. Et ensuite, on essaie d'ordonner la réalité et de créer un concept qui pourrait expliquer ce qui se passe, en fait. Et ce livre propose le concept de soision, de « j'ai inventé un concept ». Voilà, soision, pour comprendre ce que faisait la Russie dans la région. Donc l'approche, le point de départ de ce livre, c'est une vision unitaire du monde. C'est une vision fondée sur la cohérence, sur une prescription de l'unité. Si vous voyez ce que je veux dire, il y a une unité dans ma perception à l'époque. Je ne sais pas si vous m'entendez encore, monsieur. C'est assez dingue. Oui, il faut tenir. Une unité. Pour être chercheur, il faut accepter certaines choses, du moins à l'époque. Qu'il y a une unité entre l'étude et la compréhension. C'est-à-dire que plus on étudie quelque chose, mieux on comprend. C'est un peu l'idée quand on est chercheur. Il y a une unité entre l'État et sa volonté. C'est-à-dire que chaque État a une volonté, une stratégie, donc, qui met en jeu des moyens pour atteindre ses buts. Voilà, donc c'est une vision. Ce livre est une image classique d'un chercheur qui voit le monde d'une façon très cohérente, très rationnelle, scientifique. Tout est sous le signe de la raison et sous la possibilité affirmée de comprendre. C'est que plus on étudie, plus on regarde quelque chose, plus on va le comprendre finalement. C'est ça, être chercheur. Sinon, on ne va pas chercher. Hein. Objectivité, c'est une langue anglaise, très très objective. J'ai compté l'autre jour, il y a trois fois l'utilisation en 300 pages la première personne du singulier. Je suis effacé, je n'existe pas, sauf sur le... Voilà, c'est Dov Lynch là, donc c'est moi. Mais dans toute l'idée, la méthodologie d'un chercheur, c'est de effacer le chercheur même pour laisser apparaître la réalité qui est, on espère, d'une façon ou d'une autre, objective. Et de l'ordonner. Et de lui donner un concept, une étiquette pour la comprendre. Et faire comprendre les autres. Voilà, donc c'est l'histoire d'un effacement, quelque part. C'est une histoire très russocentrique. J'ai regardé tous ces conflits, mais pour moi, c'était les champs d'action de la Russie. Finalement, les causes, les effets, tout ça... C'est pas très intéressant pour moi. Je regardais la stratégie russe. Donc voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape est différente. Ah, c'est ça. Voilà. Ça s'appelle en anglais, bien sûr, c'est toujours en anglais, Engaging Eurasia Separatist States. C'est pas des titres très foisonnants. Je suis devenu à l'époque professeur aux études de guerre, dans le département d'études de guerre au King's College à Londres. Donc voilà, j'ai fini Oxford, j'ai eu un poste, la chance inouïe d'avoir un poste professeur d'études de guerre à King's, spécialiste sur la Russie, spécialiste sur les conflits. Je me suis dit, en regardant la carte un jour, et je me souviens du jour où je regardais, mais je me disais, mais en fait, il y a tous ces conflits, qu'est-ce qui se passe dans ces conflits? J'ai passé 5 ou 6 ans à faire une thèse sur la Russie, mais sans comprendre exactement ce qui se passait dans ces zones de conflit. Qui avait-il en Abkhazie? Qui habitait là-bas? Je ne savais pas. Qui habitait en Ossétie du Sud? Tous ces pays autoproclamés qu'on ne connaît pas. Donc voilà, je voulais, avec ce livre-là qui est sorti en 2004, revoir la carte. Donc me dire, en fait, la carte, elle est, tout ce que j'ai vu pour l'instant, ce n'est pas faux, mais c'est juste incomplet. Il fallait la revoir. Et à l'époque, on regardait ces conflits soit comme des espèces de conflits sales, hein, interétatiques, ethnique, un peu comme sur le modèle de la Bosnie à l'époque. Pas très intéressant, un peu déroutant. On les voyait comme des outils russes, pas plus. On les voyait comme des trous noirs. On rappelle un diplomate américain en Géorgie qui m'a dit « Mais pourquoi vous allez là-bas ? C'est pas intéressant, c'est des trous noirs, c'est criminel, attention à vous, il n'y a rien là-bas. C'est une zone libre. » Et voilà, ce que je voulais faire, c'est essayer de comprendre ces zones libres, me dire « Mais parce que j'avais l'intuition que c'était faux, qu'il y avait quelque chose. » Il y avait 4 pays qui s'étaient déclarés autoproclamés, indépendants. Merci. C'est vraiment un vent. Vous avez c'est un village venteux. Hein, ouais. Et on utilisait les mots d'ordre pour les comprendre. Un des mots d'ordre, c'était des conflits gelés. Donc, en fait, après les cessez-le-feu, il ne s'était rien passé. Moi, j'avais l'intuition qu'il y avait quelque chose qui se passait. On y disait que c'était des poupées russes, que c'était des trous noirs, qu'il ne se passait rien. Et en fait, j'ai monté un projet. C'est là, à cette époque-là, qu'on me prenait vraiment pour un espion, qui était financé par le gouvernement américain. Et j'ai proposé ce projet. Ils m'ont financé pour faire un an d'études sur toutes les zones séparatistes, donc tous ces États séparatistes, pour essayer de les comprendre, pour poser la question de comment, que sont-ils et comment survivent-ils. Personne n'y était allé. Beaucoup de gens avaient travaillé sur les conflits, et moi inclus, sans y aller, sans regarder ce qui se passait, sans parler à ces gens pour savoir ce qu'ils pensaient eux. Le résultat est intéressant, parce qu'en fait, ce qui se passe, ce ne sont pas des trous noirs. Ce ne sont pas des zones criminelles. C'est vrai que c'est des guerres sales, mais la guerre est toujours sale. En fait, ce sont des États de facto. Donc, il y a deux façons de voir l'État. Il y a une façon, on peut dire, des États déjurés. Il y en a 198, je pense, dans le monde, acceptés par tous les autres États, qui ont une place à l'ONU à New York. Et puis, il y a une bande d'États qui sont autoproclamés, séparatistes, qui existent, qui sont des États de facto, qui existent. Ils ont des structures étatiques, des rhétoriques et des langages d'État, une volonté d'État. Et ils sont séparatistes, ils sont reconnus par personne, mais il y a quelque chose. Donc moi, j'ai commencé à regarder, j'ai passé des mois à arpenter toutes ces zones de conflit, à parler avec tout le monde. Ils étaient très étonnés, ils ne savaient pas ce que je faisais là. Ils voyaient que je travaillais dans le département d'études de guerre, que j'étais financé par les Américains. L'institut qui me finançait s'appelait l'Institut de la paix. Ils se disaient, mais celui-là, ils étaient très méfiants. J'ai compris plein de choses. En fait, j'ai compris que la peur est un facteur constituant de tout État. Que la peur de disparaître est une fonction de tout État, quelque part, mais encore plus dans les États séparatistes. Parce qu'ils pourraient disparaître demain. L'idée des États séparatistes, généralement, ne dure pas très longtemps. Beaucoup disparaissent, certains durent, mais c'est très difficile. Et donc c'était quelque part une forme de raquette. C'est que l'existence même de ces États produisait la menace qui allait les justifier, leur existence. Donc une forme de logique un peu perverse, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, que c'était des sujets propres à eux-mêmes, qu'ils avaient une volonté étatique qui était à eux-mêmes, une logique étatique et un dialogue avec des écoles, des professeurs, des structures étatiques, des armées, des polices, etc. Très, très faible, mais qui était là. Et aussi des économies de subsistance. C'est-à-dire qu'ils existaient. Mais ce n'étaient pas des acteurs économiques, c'était avant tout des acteurs politiques. Et pendant longtemps, pendant une dizaine d'années, on s'est dit, la communauté internationale n'a pas reconnu ces États. Elle a essayé de mettre pression sur les États, en maintenant aucun contact avec eux et en mettant des blocus économiques sur ces États séparatistes. Donc on ne maintenait aucun contact. Et en fait, c'était faux. Enfin, l'idée derrière cette politique, c'était que c'était des acteurs économiques et qu'au bout d'un moment, ils allaient se dire « Mais en fait, on ne gagne pas d'argent et vaut mieux qu'on fasse compromis pour devenir plus riche en ayant des contacts. » Donc en fait, ce livre est un... Je voulais proposer une nouvelle vision des conflits et aussi une nouvelle vision de la résolution des conflits. Trouver un équilibre entre l'existence, la reconnaissance d'un État. On ne pouvait pas reconnaître ces États séparatistes. Mais quelque part, de les engager. J'avais l'intuition qu'il fallait non pas les isoler, mais d'y aller, les engager et de les embrasser quelque part. Et je travaillais au début pour le département d'études de guerre à Londres, et ensuite je suis devenu chercheur à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, qui est une agence de l'Union européenne. Quand l'Union européenne, en 2000-2002, a commencé à créer des structures stratégiques, d'armée, enfin de militaires, c'est l'agence d'analyse qui était attachée. Et j'essaie de proposer cette idée à tout le monde. Et je suis allé à l'OTAN, je suis allé à l'Union européenne, aux Nations unies à New York, pour dire il faut arrêter d'isoler ces États séparatistes. Il faut y aller, il faut monter nos drapeaux là-bas, peut-être pas les reconnaître, mais il faut y aller, il faut les embrasser, les engager, pour les persuader à changer peut-être et à devenir, enfin les socialiser quelque part dans les relations internationales, parce qu'ils existent. Ils n'allaient pas disparaître. Donc là déjà, on voit un mouvement... un éloignement de cette approche-là, qui n'est plus russo-centrique, qui est un peu plus pluraliste, on va dire, en termes de vision de la région. avec d'autres histoires possibles que celle qui est seulement celle de la Russie. Il y a le mouvement d'une vision plutôt cohérente vers une vision un peu plus moins rationnelle de la région, et une vision dynamique d'État. Et aussi une évolution par rapport à ça. Là, c'était un livre juste pour comprendre. Là, c'était vraiment un livre pour essayer de changer la réalité. Donc j'ai proposé même des solutions à ces conflits. Allez savoir. Ça n'a servi à rien, mais bon, là, c'est pas grave. Mais encore, l'approche est scientifique, c'est de l'anglais. C'est une vision académique très objective qui se veut ordonnatrice de la réalité. Ce concept d'état de facto, je crois que quelqu'un l'a créé au Canada, mais je l'ai repris. Et voilà, on avance avec des concepts dans ce monde-là. Donc ce n'est pas vraiment une cassure par rapport à ma thèse. La troisième étape est plus une cassure. Et là, je vous parlais, là, je vous ai lu le premier chapitre qui est d'improbable aphrasie. Là, c'est un changement total. Et là, j'étais devenu un des négociateurs dans ces zones de conflit, et notamment sur l'aphrasie, où j'ai fait une quinzaine de rounds de négociations avec les séparatistes et les Géorgiens, avec les Russes, les Américains, l'Union européenne et les Nations unies. Mais c'est un changement total. Un changement de langue, parce qu'il écrit en français. C'est un changement de registre, c'est pas un livre académique ni politique, c'est un espèce d'essai. C'est un changement de nom, parce que c'est pas mon nom, c'est un nom de plume. J'ai été obligé de prendre un nom de plume, parce que j'étais négociateur dans le même conflit dont le livre est le sujet. Et un changement de perspective. Il n'est plus russocentrique, ce n'est pas une étude comparative, c'est vraiment une analyse sur l'aphrasie même, donc ce petit bout d'État séparatiste qui se trouve en Géorgie, sur la rive de la mer Noire. Et le résultat est une espèce de... C'est un truc un peu inclassable. C'est une forme d'essai, c'est pas un récit de voyage, c'est pas un récit sur la guerre, c'est pas un récit politique, c'est pas un livre où la connaissance, tout ce que j'ai pu apprendre sur ces conflits est montré, il est mis de côté presque. C'est une espèce d'esquisse, un portrait léger d'une région, de l'État, d'un État séparatiste, ce que pourrait être un État séparatiste. Et pourquoi j'ai choisi ça? Parce que plus j'allais directement pour essayer de comprendre ces États séparatistes et ces conflits, plus j'avais l'impression que je ne comprenais pas. Donc plus cette idée d'unité entre études et compréhension se cassait, moins je comprenais. Et j'avais l'impression qu'il fallait que je prenne d'un autre chemin, de biais. Et deuxièmement, j'y allais, enfin, cet essai est sorti parce que en fait, je suis tombé un peu amoureux de l'Aprasie, pour tout dire. C'est vraiment une très très belle région, il faut dire. C'est une zone de guerre, toujours. La ville de Sokoumi est trois quarts détruite. C'est une ville vide. C'est une zone subtropicale. C'est très, très beau sur la mer Noire. C'est presque un décor de théâtre. En même temps, c'est l'impression d'être au centre des choses. C'est très bizarre. Très difficile d'y accès et j'y allais très, très souvent. Par hélicoptère, en Géorgie, il fallait passer avec l'ONU. C'était très compliqué, un peu ardu, un peu difficile, un peu dangereux. Et à chaque fois, je me descendais l'hélicoptère et je me retrouvais dans un endroit et voilà, j'avais l'impression d'être au centre de quelque chose. Je savais pas de quoi c'était, mais j'avais l'impression que c'était. Et j'y allais pour parler avec tout le monde, mais en fait, je finissais par me balader. Et voilà. Donc il y avait un truc qui me propulsait. Je savais pas ce que c'était. Et là, je vais vous relire encore un petit passage qui vient de ça. Là, c'est un rendez-vous que j'ai eu avec le ministère des Affaires étrangères. Donc un gars qui n'est reconnu par personne au monde. Donc un ministère qui ne sert à rien, en fait, quelque part. C'est ubuesque. Mais les gens font le théâtre toute la journée. C'est ce qu'on fait. Nous sommes des acteurs. Le ministère occupe le second étage d'un bâtiment qui donne sur une rue calme. Le décor du bureau de son ministre, Sergei Chamba, est typiquement post-soviétique. Un large bureau de travail trône au centre de la pièce. À sa droite s'alignent 8 téléphones de couleurs différentes sur une petite table en bois, certains sans cadran. À chaque fois, je ne comprenais pas. C'était quoi ces téléphones sans cadran? En contrebas, une table où viennent s'asseoir ses interlocuteurs. Donc on s'assoit devant lui. Le téléviseur est allumé à toute heure de la journée, bien sûr, et une ampoule nue pend du plafond. Le visage de Sergei Chamba est rond, les yeux un peu rieurs et sa voix posée, celle d'un homme habitué à être écouté. je suis là pour l'écouter. Ancien universitaire, il a écrit une thèse sur la numismatique ancienne qu'il a soutenue à l'université de Tbilissi. La question évidente, comment un docteur en numismatique devient-il dirigeant séparatiste ? Parce que j'ai été élevé dans la tradition, me dit-il, parce que je parlais la langue abkhaze, parce que cette idée était tenue comme sacrée dans ma famille, parce que j'étais prêt à tout. Chamba dit avoir été bercé dans le nationalisme par son père et son grand frère, tous deux de célèbres indépendantistes. La lutte, me dit-il, se transmettait de génération en génération, comme une tradition, comme l'évangile. Dès son retour d'université, il devient un des dirigeants. Comme pour des révolutionnaires du XIXe siècle, le nationalisme de Chamba est imprégné de la notion de sacré. Chaque abkhaze, dit-il, sait que l'abkhazie se trouve sous la protection d'une puissance supérieure. Ce pays contient 7 lieux mystiques. Nous avons aussi un code moral que nous appelons l'Apswara, qui nous apprend que cette terre nous fut donnée par une force supérieure et que nous devons tout faire pour la défendre. Son nationalisme est une sorte de religion séculaire pour la défense d'une ethnie et d'une terre. La formation d'un État indépendant est vécue comme la sacralisation historique du peuple abkhaze. Pour Chamba, la peur est une force motrice, la peur que son peuple disparaisse, la peur que sa culture ne se perde à jamais. Il a raison. De ces peurs est né un cycle récurrent de mobilisation. L'attaque géorgienne du 14 août 1992, qui devait écraser le séparatisme abkhaze, produit l'effet contraire, apportant à la fois les circonstances et le dynamisme nécessaires à la naissance d'un État indépendant. Donc voilà mon premier aperçu officiel de l'État séparatiste. Le discours de Chamba est ordonné, il est clair. L'État, c'est la liberté, c'est une tradition familiale, c'est une terre sacrée. L'État a écouté le ministre numismate. L'histoire doit se lire à l'envers. Elle part du présent vers le passé pour chercher les repères qui justifient l'actuel état de fait et pour écarter toute autre histoire alternative. De cette lecture de l'histoire, l'État abkhaze existait au 8e siècle et n'a jamais disparu, en fait. À la fin de son entretien, Chamba se lève et me tend d'un air un peu solennel une collection de timbres, un cadeau. Sur chacun d'eux figure le portrait d'un héros du panthéon abkhaze, des figures d'écrivains, d'historiens, de dirigeants politiques, et la dernière, un peu plus inattendue, le portrait d'un chien. Je le remercie. Et sans réfléchir, vraiment, je lui demande si je peux m'en servir. « Vous en servir ?» me dit-il. « Mais pourquoi ?»« Bah, pour envoyer une lettre à la poste. »« Ah non. Ah, vous ne voulez pas que je m'en serve ?»« Non, non, non. C'est que nous n'avons pas de poste. Nous ne l'avons pas encore établi. » Et dans son regard, à ce moment-là, passe l'ombre d'une idée. Un sentiment qui disparaît aussitôt. Un sentiment de faiblesse de l'État abkhaze qui, au regard du monde, n'en est pas un. Un sentiment d'absurdité d'être un ministre des Affaires étrangères dans un pays qui n'en a pas, officiellement, car il n'existe pas. Un sentiment aussi de peur que je vois. Peur que l'abkhazie ne disparaisse demain, peur d'une nouvelle attaque géorgienne et que le monde détourne le regard. L'abkhazie vit suspendue entre la dernière et la prochaine guerre, captive de l'entre-deux, qu'il condamne à vivre sans horizon, fixée dans un présent éternel. L'avenir ne peut pas vraiment prendre racine et le passé n'est jamais vraiment révolu. Et c'est ça que j'ai vu dans ses yeux. Ce purgatoire lie l'abkhazie à la peur comme l'étreinte d'un mourant. Les abkhazes invoquent le droit à l'autodétermination, à la justice, mais ils savent que dans l'état actuel du monde, la Géorgie est donnée raison. La Géorgie sera toujours l'héritier, l'abkhazie à jamais le bâtard. Plus j'écoutais les officiels séparatistes pour cerner leur vision de l'État, plus je me rendais à l'évidence que l'État... Ce n'est pas la somme de ces dirigeants. Leur discours n'est qu'un amalgame d'idées reçues, leur vision de l'histoire trop plate, trop cohérente. Très vite, le récit officiel m'est apparu comme une sorte de muraille pour revêtir une façade composée de mots d'ordre, d'images, de sentiments, pour revêtir de sens une réalité anarchique et pour éloigner la peur. Et très vite, j'ai compris que ce qui m'intéressait, ce n'était pas cette muraille, mais ce qu'elle protégeait, ce qu'elle cachait. Ah, ça, c'était ça. C'était... Donc, je suis parti, méthodologie complètement différente. Je suis parti en abkhazie, je ne sais pas, une dizaine de fois, soi-disant pour le travail. Mais en fait, j'y allais pour faire, je n'étais pas du tout formé dans cette méthodologie, mais pour écouter les gens. Donc, non pas pour explorer l'histoire officielle d'un État séparatiste ou de la région, mais écouter les histoires des gens. Donc j'ai passé des heures à écouter Shamba, des heures à écouter d'autres gens, des heures à leur poser des questions sur leur vie, sur ce qu'ils étaient, sur leur formation, comment ils voient la vie, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, sur la guerre, enfin, ce qu'ils avaient vécu. Il y a eu deux repères de lecture dans mon approche. Le premier, c'était de l'État. Le sociologue Max Weber définit l'État comme puissance, comme institution. L'État, c'est une institution qui contrôle le monopole de la force sur un territoire déterminé. Donc institution. Puissance rime avec institution. Mais vu comme ça, l'État, à Praz, est ridicule. Le ministère de l'Éducation, j'ai passé des heures, n'a pas de livre. Donc les institutions de l'État à Praz n'existent à peine. Donc cette vision de l'État me semblait insuffisante. Donc il fallait chercher ailleurs. Parce que la Prazie vit effectivement dans une sorte de purgatoire. Elle s'est déclarée indépendante, mais elle n'existait pas vraiment. Donc comment survivent-elles ? Et pour répondre, il ne faut pas, je pense, ne pas seulement regarder les institutions ou le corps d'un État, mais regarder l'esprit, son âme, quelque part. L'État, tout État, puise la force pour survivre dans la peur et dans le rêve. La peur de disparaître et le rêve, qui est l'imaginaire qui confère, qui conjure la peur et qui traduit une réalité souvent de pénurie en liberté. Alors, je suis arrivé, à Pierre Bourdieu, qui complète quelque part la définition d'État qu'a fait Max Weber. Puissance, l'État, pour Bourdieu, n'est pas que puissance physique, bien sûr. C'est une puissance symbolique. Qui dit institution d'État, dit esprit pour comprendre ces institutions. Plus qu'une poignée d'institutions, l'État, c'est une connaissance du monde. L'État, c'est une façon de saisir les choses, de les comprendre, de les penser. Et la Prazie, donc, était intéressante parce qu'il y avait très peu d'institutions physiques et beaucoup d'esprits et beaucoup d'âmes, quelque part. Donc, c'était intéressant parce que, quelque part, en 91, Pierre Bourdieu a donné une conférence à Amsterdam où il dit la phrase suivante. Entreprendre de penser l'État, c'est s'exposer à reprendre à son compte une pensée d'État. Paradoxe. Donc, à appliquer à l'État des catégories de pensée qui sont produites et garanties par l'État. Donc, à méconnaître la vérité la plus fondamentale de l'État. Donc, il pose la question, si nous sommes tous des hommes et des femmes étatisés aujourd'hui, comment sortir d'une façon de voir le monde pour essayer de comprendre cette façon de voir le monde ? C'est compliqué. La vérité fondamentale de l'État, c'est quand même une question énorme. Le deuxième repère que j'ai eu, c'était Kafka. Le château de Kafka. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Le château de Kafka, ça parle d'une histoire très simple. Un arpenteur, un géomètre, arrive dans un village qui reste son nom. Et il dit qu'il a été embauché par le château à faire, à arpenter le village et ses alentours. Il passe tout le livre, qui ne termine pas d'ailleurs, qui n'a pas terminé, à essayer de rejoindre le château. Et je vais vous lire un passage de la première phrase du château. C'était le soir tard lorsque K, donc l'arpenteur, arriva. Le village était sous la neige, la colline du château restait invisible, le brouillard et l'obscurité l'entouraient, il n'y avait même pas une lueur qui indiquât la présence du grand château. K s'arrêta longuement sur le pont en bois qui mène de la route au village et resta les yeux levés vers ce qui semblait être le vide. Il passe tout le premier chapitre à essayer de rejoindre. Donc il s'endort, il arrive au château, il arrive à l'auberge, il s'endort, et le lendemain il se lève, et il essaie de passer toute la journée, il essaie de rejoindre le village, qui est juste là, pourtant. Et il n'y arrive pas. Il la voit, et à chaque fois qu'il s'approche, le château s'éloigne. Et à la fin de ce premier chapitre, qui est vraiment un peu un chapitre de déception, il dit la chose suivante. Le château tout là-haut. Curieusement sombre déjà, ce château que K avait tant espéré atteindre avant la fin de la journée s'éloignait à nouveau. Et comme pour lui faire un signe de guise en guise d'adieu provisoire, un son de cloche irrutentit, guillerait, mais également douloureux, si bien qu'au moins l'espace d'un instant, le cœur frémissait, comme menacé de voir s'accomplir l'objet de son désir incertain. Voilà, je pense que là, moi en tout cas, j'avais l'impression qu'il y avait plein d'éléments que je comprenais. un étranger qui arrive dans un village dont les villageois sont très très méfiants, qui essaie de rechercher, de comprendre le cœur du village sans jamais l'atteindre. Voilà, ça c'est un peu les éléments de ma recherche en aprasie. Une recherche un peu futile finalement. Parce que le château, finalement, il n'est pas physique. Il est imaginaire. Il ne s'approche pas, on ne l'approche pas, on ne l'approche jamais. Et on ne le regarde pas. On n'en voit que les signes du château. On n'en voit que les signes de pouvoir, les signes de légitimité. C'est le château, finalement, c'est un sémaphore. C'est une espèce de langage de sémantique, de signes, de signalétique. Et ça m'a fait penser au dilemme de Wittgenstein, ce philosophe du langage, qui disait, et je vous cite cette situation, « Une image nous tenait captifs et nous ne pouvons lui échapper car elle se trouvait dans notre langage qui semblait nous la répéter inexorablement. » La question que je me posais, c'est, en allant ces 10 fois écrivant cet essai, c'était comment désamorcer le doxa de l'État, comment comprendre l'État si moi-même j'étais pris et complètement étatisé, comment sortir de ce doxa et le défaire. Une des réponses que j'avais, c'est pour ça que j'allais en aprasie, parce qu'en aprasie, on voyait que c'est un état en naissance, un état en gestation, donc on pouvait voir les ficelles de cet état, on pouvait comprendre, on pouvait voir le ridicule de l'état, l'absurdité des prétentions, des ambitions de l'état. Donc, et l'exposer, c'est ce que j'essaie de faire. L'État est tout signe, et son regard ne se croise jamais, mais ce qui se croise, c'est le regard des gens. Et c'est pour ça que j'ai commencé à parler avec des gens pendant des heures. Et pendant tous ces séjours où j'ai passé, j'ai pris un métophone, je les ai enregistrés pendant des heures sur leur vie. Parce que ça, on peut les écouter. Et je vais lire quelques voix pour que vous entendiez un peu les voix de ces aprases, de ces gens. Juste la voix. Ça, c'est la voix de Daour. Quand la guerre a commencé, me dit-il, j'étais chez moi. C'était le matin. J'ai vu des hélicoptères et quelqu'un m'a dit, mais voilà, c'est la guerre. Et d'un coup, ma vie a basculé, du paradis vers l'enfer. J'ai observé les gens. J'ai vu que le basculement de la paix à la guerre a lieu en un déclic. Imagine que la guerre éclate à Paris et que tu n'as jamais connu la guerre. Eh bien, dès qu'elle commence, tu te transformes. Les gens se changent complètement, de fond en comble. La guerre doit être une chose que nous portons déjà dans notre conscience, car le changement se fait en une seconde. D'un coup, tu te rends compte que c'est la guerre, il faut vivre selon ses règles. Pendant la guerre, la vie est facile. Tu n'as pas de problème, tu dois survivre, tu dois te battre. Quand tout a commencé, c'était comme un bouton que l'on aurait appuyé dans moi. J'étais ici, dans cet appartement. Les premiers combats se déroulaient au sud de la ville, sur le pont rouge. Quand les Georgiens ont commencé à prendre contrôle, voilà, je suis parti tel que j'étais, en t-shirt. Sur le chemin, j'ai regardé en arrière, j'ai vu les blindés qui avançaient sur la route du bas. J'ai traversé le pont et je ne suis jamais revenu. Je ne vais pas en lire d'autres, mais ça, c'est un peu la voix de les voix que j'ai pu écouter. Donc là, on voit que c'est un changement complètement... Ça n'a rien à voir avec ces études. Avec un proverbe aprasie, avec cet essai, tout a changé. Ce n'est pas du tout une approche étatique, cohérente, rationnelle, mais individuelle. Je n'ai pas du tout l'idée de découvrir l'histoire de la région, mais seulement de rencontrer et d'écouter les histoires possibles, tous les récits. Parce que l'histoire de l'État, finalement, est plein d'histoires, est plein de récits. C'est une tapisserie de récits. Donc... voilà, c'est aussi, je pense, aussi un changement de langue. Et c'est ma première intuition qu'il fallait que j'écrive pas en anglais. Même si toute ma formation, toute mon background, toute ma vie, finalement, parce que je suis irlandais, est en anglais. Et c'est très difficile. Mais j'avais l'impression qu'il fallait que je défasse un peu mes réflexes d'académique, d'être universitaire, de politique. Le résultat, c'est un livre qui n'est pas académique, une sorte de récit, un essai. Et je vais vous lire juste une dernière partie pour finir, avant de passer à la dernière étape. Voilà, c'est le chapitre 15, très très court. Ça commence avec un poème. Où est Dieu ? Il était avec toi. Pourquoi je ne le vois pas ? Tu dois le chercher. Il est avec ta douleur. Il est avec toi. Pourquoi suis-je aveugle? Car tu es loin de ta vraie nature. Tu as oublié comment regarder ton âme. Que faire? Tu dois regarder les yeux fermés. Depuis 3 jours, tous les soirs, Liana me lit ses poèmes. Et ça se déroule comme ça. Liana, c'est la personne chez qui je reste quand je suis là-bas. Je rentre tard, Liana est assise à la table, dans le salon, son calepin est ouvert. Elle me demande si elle peut me lire un nouveau poème. Je dis oui, et je m'assois. Elle n'a plus de travail. Le recteur de l'université l'a gentiment mise à la porte. Elle passe ses journées maintenant à tenir un petit kiosque dans la rue où elle vend des cigarettes et de l'eau. Des biscuits. Elle me dit « J'ai commencé à écrire de la poésie sans y réfléchir, sans expérience. Le premier poème est venu d'un trait et maintenant, je ne peux plus m'arrêter, me dit-elle. Je passe la journée à écrire. Ils viennent tout seuls. Je ne remarque plus l'heure qui passe, j'écris. » Elle lit dans une langue à phrase et ensuite elle me traduit ça en russe. Silencieux, fatigué, je l'écoute. Elle me parle de chaque poème, de sa construction, de son sens. Elle explique qu'il faut éteindre son cerveau pour vivre avec son cœur, comme un bouddhiste. Les aphrases, me dit-elle, sont tous devenus bouddhistes sans le savoir, car nous avons été obligés d'éteindre nos cerveaux pour continuer à vivre. Nous vivons tous avec le cœur, car c'est tout ce que nous avons pour vivre. La troisième nuit, elle m'avoue qu'elle est amoureuse. Elle rougit comme une jeune fille, elle sautille un peu sur son siège et un sourire illumine son visage. « Tu me diras les secrets des hommes, me dit-elle. Il faudrait que tu m'aides à ruser, à attraper cet homme. » Plus tard, je suis... Attendez. Plus tard, je suis assis sur le lit de ma chambre. Dans ma chambre, il fait très froid. Une ampoule nue pend du plafond et j'ai téléphoné à Paris un peu plus tôt dans la soirée, mais personne n'a décroché. J'ai l'impression de plus rien savoir. Alors je reste immobile sur le lit comme fixé au bout d'une aiguille, invisible. Dans la nuit, les pleurs étouffés de Liana me réveillent et je reste dans le noir à les écouter. C'est un livre un peu sur le désarroi des gens qui vivent dans ces états séparatistes, mais aussi le mien, qui tant de fois je me suis retrouvé dans ce genre de circonstances et honnêtement, je ne savais pas trop ce que je faisais là, à écouter... les poèmes de Liana ou d'autres gens. En même temps, j'étais négociateur sur ces conflits, sur ce même conflit, où je travaillais donc avec le ministre en question à Praz, avec le ministre géorgien, le ministre américain et russe, et j'étais complètement en porte-à-faux par rapport à ce que je vivais intérieurement et ce qui m'intéressait vraiment. Et donc j'ai arrêté ce métier à cause de ça. Et on arrive à la dernière étape de cette évolution, de ce petit parcours, qui est Mer Noire. Donc le roman qui est sorti chez Anacarsis il y a un an, c'est un roman court, ça propose une traversée de l'Europe, de l'histoire de l'Europe par un homme, un Irlandais, un ex-terroriste de l'IRA, qui fuit l'Irlande après la mort de son père et qui à la quête de son frère. Voilà, c'est un peu ça, tout simplement. Et qui traverse l'Europe de l'Irlande à la Prasie, bien sûr. Parce qu'il fallait qu'il en aille à la Prasie. C'était obligé. Après tout ce parcours, on comprend mieux maintenant. C'est la Prasie, ici n'est pas la Prasie. Le conflit, tel qu'il est expliqué ici, n'est pas du tout expliqué. Donc toute la connaissance, tout ce que j'ai pu apprendre pendant 10 ans, 20 ans sur ces conflits, je l'ai mis de côté. Et je n'en ai pas parlé. Je ne l'ai pas expliqué. C'est fait exprès. Je voulais m'éloigner d'une explication, une sorte de volonté objective d'expliquer les causes et effets d'une guerre, pour aller au plus profond de quelque chose. Donc, et c'est aussi important, ça c'est le premier essai en français, mais là c'est vraiment en français, et c'est la littérature. Et je veux vous dire, c'est très compliqué pour un étranger d'écrire en français. Je parle très bien le français, vous pouvez l'entendre, mais j'écris très mal, j'écris énormément de difficultés. Je peux écrire, j'ai une facilité d'écriture en anglaise parce que j'écris toute la journée, c'est ma formation, c'est ma vie l'écriture. Mais en français, c'est comme choisir de se bander les yeux. C'est choisir un ralentissement radical de toute capacité linguistique. C'est ne pas savoir si chaque phrase qu'on écrit est juste ou pas. parce que je ne sais pas. Je n'ai pas la même certitude, c'est choisir l'incertitude. Quand j'écris en français, je ne suis pas certain d'écrire des choses qui sont justes en termes de grammaire ou de syntaxe. C'est compliqué le français. C'est facile à l'oral, mais à l'écrit, non, c'est vraiment compliqué. Donc voilà, mais c'était un choix. Si là, c'est une intuition, mais là, c'est un vrai choix. Parce que je voulais complètement défaire tout ce que j'avais appris. Je voulais vraiment mettre de côté, extirper vraiment cette formation que j'avais eue en anglais et essayer de voir d'une façon nouvelle les sujets qui m'intéressaient et finalement de trouver un peu peut-être la littérature et l'art de ce que j'avais appris. Donc, mais quitter une langue, sa langue maternelle, c'est un peu partir en exil. C'est très compliqué. Si, j'ai toujours pensé que le langage était constituant, c'est-à-dire que il n'y a pas de séparation entre ma pensée et le langage même. C'est-à-dire que quand je pense, je peux écrire. Voilà. Et l'anglais, c'est comme ça. Il y a une unité entre ma réflexion et mes capacités d'écriture. Et bien, quand j'écris en français, le langage n'est pas constituant du tout. Il y a un gouffre, une brèche qui s'établit entre ce que je pense, ce que je ressens et ce que je peux écrire. Et ça, c'est intéressant. Et c'est exactement ce que je voulais. C'est un pari, quelque part, de réduire, une réduction radicale pour ouvrir, d'enlever toute virtuosité, toute autorité pour, finalement, et ça qui est paradoxal, pour devenir auteur. Ah ça, il faut que je me grouille, alors. Et en fait, de choisir la mise en danger. Le résultat, voilà, c'est ça. C'est une espèce de traversée de l'Europe, une traversée à plusieurs niveaux, une traversée du continent, un périple à travers ce continent, en train, en bateau, à pied finalement, d'une mer à l'autre, d'une extrémité à l'ouest, à l'est. C'est aussi une traversée de l'histoire de l'Europe, de ses conflits, de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, tout y est quelque part. Hein. C'est des traces surtout de la guerre qui sont présentes en Europe, qui sont les cicatrices que nous portons, que chaque village porte en France, partout en Europe. C'est une traversée d'un homme, par un homme, un peu muet, dont l'action est vraiment le mouvement et la parole, qui commence ce voyage comme une sorte d'accident, finalement, parce qu'il ne l'a pas préparé du tout. Cet accident devient une sorte d'errance, qui devient une sorte de destinée, qui est propulsée par une volonté sans nom. Et finalement, un mouvement de registre, parce que ça commence, je voulais que ça commence comme un polar, et ça ne finit pas du tout comme un polar. Mais ça commence avec les codes de polar, avec un truc très fermé, noir, enfin un peu violent, mais c'est pas ça la fin, du tout. Donc voilà, de casser un peu, de faire un mouvement dans le langage même, dans le récit même. Ce qui m'intéressait, avec c'est une vision complètement différente de la guerre qui est proposée que dans ces livres-là, de l'histoire. La guerre, je comprends maintenant, ne se regarde pas de face. Elle ne se comprend pas de face. C'est une muraille de mots d'ordre qui est lisse, qui est sans accroche. C'est la guerre, c'est une image de Gorgone qui vous paralysie. C'est terrible, la guerre. Donc comment la comprendre? Il faut la prendre de biais. Il faut la prendre du côté pour essayer de la cerner. Et c'est pour ça que je pense, tous les ans, de nouveaux livres sortent sur la Première Guerre mondiale, sur l'histoire de la Première Guerre mondiale. Très intéressant, d'ailleurs. Mais il faut vraiment comprendre la Première Guerre mondiale. Je pense qu'il faut lire la poésie de la Première Guerre mondiale. Il faut lire les approches en biais sur ces expériences qui sont fondamentalement humaines. C'est aussi une nouvelle vision de l'histoire. Si dans ces livres-là, les premiers surtout, l'histoire avec un grand H existe, mais elle n'existe plus du tout ici. Ce roman est sur l'interstice entre ce qui se passe et ce que sera le passé. L'interstice, c'est le moment quand l'histoire se fait, mais elle ne se comprend pas. La guerre, l'histoire, c'est une suite d'événements décousus. Qui sont régis non pas par une vision déterministe de l'histoire, des causes, une vision de ce qui se passe, mais par le hasard, par les rencontres, par les hommes, par la chance ou la malchance. Je vais vous lire juste une petite partie avant de finir. Là, c'est Dimitri, le personnage principal, discute avec un journaliste polonais qu'il rencontre là-bas. Alors, verger, plantation de thé, dominer, là, il se trouve en Aprasie. Mais bon, le mot Aprasie est presque jamais utilisé. Dominer le verger et plantation de thé dominaient le flanc des collines. Il perçut un mouvement fuyant d'une silhouette devant l'entrée d'une ferme. « C'est quoi mon rôle ?» demandait le Polonais après un moment. Il se tourna vers Dimitri. « Tu veux que je t'explique tout ça ?» demanda le Polonais. « Que je te raconte le pourquoi et le comment ?»« Je dois t'emmener et en même temps t'expliquer tout ce qui se passe ici, c'est ça ?» Dimitri ne dit rien. « Pourquoi pas, après tout ?» dit le Polonais. « Je peux être tout ce que tu veux. Je peux être ton guide, je peux être ton chercheur, ton chauffeur. » Le ton de sa voix était guilleret. « D'accord, » dit-il. Dimitri sentit une pointe de chaleur au fond de son ventre. Bah, « Pour commencer, » dit le Polonais, « je vais t'expliquer où nous sommes. » Dimitri réalisa qu'il devait dire quelque chose pour arrêter le Polonais. Mais il resta silencieux et le Polonais continua. « Nous sommes au point le plus délicat de la guerre, » dit-il. « Tout peut arriver, ça change tous les jours, le front se déplace, rien n'est clair. Et au milieu de tout ça, il y a nous, dans cette voiture, sur cette route, toi et moi. » Nous sommes ensemble sur cette route comme si nous devions l'être, comme si nous avions une raison d'être ensemble, alors que nous ne nous aimons pas. Le Polonais alluma une cigarette et dit que les choses ne s'éclaircisseraient qu'une fois les combats finis, après la fin de la guerre, quand le vainqueur écrirait l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. L'avenir, tu verras, donnera naissance au passé. Tu comprends. Mais ça, c'est pour plus tard, dit-il. Pour l'instant, nous sommes dans l'entre-deux et personne ne contrôle rien. C'est le moment des grandes idées, des grandes conneries et des grandes œuvres. C'est mon expérience. Ça fait 4 ans que je fais ça, de guerre en guerre. Je ne peux plus revenir en arrière. J'ai tout essayé. Le Polonais souriait. Voilà ce que je pense, dit-il. Dimitri ne dit rien. Si tu m'avais demandé mon avis, c'est la réponse que je t'aurais donnée. Le Polonais. Les repères de ce roman sont complètement différents. Le repère, d'abord, c'est l'anabase, c'est l'idée de l'histoire de Xénophon, de l'armée des 10 000 qui se perd dans les plaines anatoliennes, qui est entourée de sauvages, de barbares, qui essaie de retrouver la mer. Cette idée des dégarements, d'errance en même temps, de monter le retour, qui est une belle image qui a été utilisée par Alain Badiou pour comprendre le siècle, le 20e siècle, dans son livre qui s'appelle Le siècle. C'est aussi Médée. C'est Médée par Eurydice. La notion de barbarie, donc de l'autre comme étant radicalement autre, est née autour de la mer Noire, est née avec la pièce Médée d'Eurydice. Cette pièce contraste, bien, c'est une pièce de contradiction entre Médée et Jason, entre l'action et la parole, entre la violence et la politique et l'extrémisme. Et c'est un livre sur la barbarie. Le barbarie, à l'origine, était un terme phonétique. C'était les gens qui ne parlaient pas grec. Et c'est devenu avec les guerres contre les Perses, je crois, et la rencontre des Grecs autour de la mer Noire avec les Scythes et les autres sauvages, entre guillemets, un terme politique, bien sûr. C'est sur la barbarie. Et voilà, je vais m'arrêter là. Et je vais juste finir avec 2 mots. Donc la mer Noire, cette mer Noire, pas le roman, mais la mer Noire. La mer Noire est vraiment la mer oubliée de l'Europe. Elle est souvent perdue dans le pli de la carte, entre l'Europe, le continent et l'Asie. Mais c'est pourtant au cœur de l'Europe. C'est là vraiment où les concepts fondateurs de l'Europe, là, ce jumeau barbarie-civilisation est né. C'est toujours été la mer Noire, une zone de rencontre, une zone de fracture, une zone de réfraction, et elle le reste aujourd'hui. Comme j'ai pu le découvrir dans ces conflits. Voilà, donc 20 ans que j'ai passé à observer la mer Noire, à la traverser, à regarder son histoire, l'histoire des conflits, de la guerre, et essayer de comprendre ce qui se passait dans la région. Je sais maintenant beaucoup plus que je ne savais il y a 20 ans, mais la question se pose, que vaut ce savoir ? Et je connais maintenant beaucoup plus que je connaissais, mais que vaut cette connaissance ? Je n'ai pas trouvé la bonne question pour essayer de comprendre le monde ou essayer de cerner, combler la brèche qui m'en séparait. Je n'ai pas trouvé. Chaque livre pose une question et il donne une réponse. Et chaque livre tient à elle-même, en soi. Chaque livre est une sorte de pierre qui viendrait s'ajouter à la bâtisse d'une expérience. Donc il n'y a pas de question singulière, en tout cas, ça c'est clair. Mais il y a une intuition, et je vais vous laisser sur l'intuition. Il n'y a pas de question fondamentale. Et l'intuition, c'est que tout ce voyage que j'ai pu mener, tout ce long voyage d'apprentissage, a été finalement donc, un voyage dans la réflexion, dans l'évolution de ma pensée, mais finalement, au fond, c'était un voyage dans le langage, dans la langue. Et la solution, s'il y en a une, elle ne se trouve pas à l'extérieur des mots. Elle se trouve dans les mots, dans la syntaxe, dans l'architecture de mots. Elle se trouve dans la difficulté que nous avons tous et la volonté que nous avons tous d'exprimer quelque chose, d'exprimer notre vision des choses. Et là, le langage, c'est vraiment ce qui nous définit l'humain. Et pour reprendre le thème de ce banquet, c'est ce qui nous lie le plus entre nous et ce qui nous sépare le plus aussi. Et je pense qu'il faut revenir à cette citation de Wittgenstein. Et je vous la relis. Et je termine là-dessus, qui est la suivante. Wittgenstein, grand philosophe du langage. Une image nous tenait captifs et nous ne pouvions lui échapper car elle se trouvait dans notre langage qui semblait nous la répéter inexorablement. Donc l'intuition, j'ai appris une chose. Et je vous laisse avec ça, c'est qu'il faut travailler cette captivité. Il faut travailler, il faut sonder sans arrêt ce lien entre image et langage, entre réalité ou représentation de la réalité et langage. Et il ne faut jamais avoir peur de se la répéter inexorablement. Je ne vais plus maintenant dans ces zones de conflit. Je ne peux pas, je suis diplomate, on ne va pas diplomate dans les États séparatistes, apparemment. Bon. Mais j'y pense, encore. J'y rêve, parfois. Et je les imagine. Et voilà, je m'arrête là.